Ça fait quel bruit des violences conjugales ? Habituellement, aucun, depuis toujours, aucun. On tabasse en sourdine, on étrangle en secret et on tue en silence. Il y a bien des coups pourtant, et puis il y a ces hurlements, mais circuler, il n'y a rien à voir, ça ne nous regarde pas ces histoires. Affaires privées, intimité, même quand elle est ensanglantée, quelques lignes dans les journaux pour se faire un peu froid dans le dos, se dire que l'amour parfois fait des folies, que c'est comme ça, que oui c'est une tragédie, mais non ça ne nous concerne pas. Secouer la tête, fermer les yeux, passer à autre chose, c'est mieux, sans rien qui vienne jamais troubler la conscience. Et l'indifférence reste toujours le meilleur moyen pour bien dormir jusqu'au matin. Oui, mais voilà que ce refrain commence à trotter dans la tête, un mot plutôt, on se répète, de bouche en bouche, jusqu'aux oreilles. Il vient nous troubler le sommeil de banderoles en affichettes, dans des manifs, sur nos tablettes. Féminicide, c'est pour perpète, pour qu'on efface plus jamais celle qu'un jour on a massacrée. Pourquoi ? Pour rien, pour être née sans doute du mauvais côté. C'était un sexe biologique, c'est une violence systémique. Peu à peu, cette réalité, on se met doucement à l'imprimer, se dire que c'est pas un fait divers, mais plutôt un fait de société. Alors on s'est mis à nommer toutes celles qu'on voulait gommer, alors on s'est mis à compter celles qu'on préfère être ignorées. Elles sont déjà 100 cette année. La barre symbolique est passée, le mur du son lui est franchi. Aujourd'hui, ça gronde, ça crie, c'est une colère, c'est une révolte. Quoi qu'il arrive, ça fait du bruit.
France Inter. Julia Foyce. Pas son genre.
Bonsoir, bienvenue. Est-ce que l'apparition d'un nouveau mot, en l'occurrence féminicide, entraîne ou indique une révolution des esprits? C'est la question qu'on va se poser ce soir en première partie de cette émission. Et on va le faire avec Sophie Gourion et Maître Emmanuel Daoud. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes respectivement Sophie, autrice pour la jeunesse et conférencière sur les questions d'égalité femmes-hommes, et vous, Maître Emmanuel Daoud, avocat pénaliste au barreau de Paris et à la Cour pénale internationale, spécialiste également des violences faites aux femmes. Autant dire que le genre, ça vous connaît, mais si je vous dis mauvais genre, bon chic, bon genre, qu'est-ce qui vous vient en premier? Qu'est-ce que vous préférez? Bon chic, bon genre, par exemple, Maître Daoud?
Écoutez, bon chic, bon genre, je pense à Lille-Dieu, Carré Hermès, Tissu Liberty.
Okay.
Et c'est à cela que je pense en premier lieu.
Et vous, Sophie Gourion, bon chic, bon genre?
Bon chic, bon genre, ouais, j'allais dire jupe plissée, serre-tête, collier de perles, et justement, qui fustige la théorie du genre, qui n'existe pas.
Alors, le Carré Hermès, le collier de perles et Lille-Dieu, voilà, on est paré, c'est validé. Elle, pour le coup, elle a plutôt un petit côté mauvais genre canaille qu'on aime bien ici, hein, avec sa blondeur peroxydée, sa coupe garçonne, sa voix pleine et son esprit définitivement rock. C'est Jeanne Hadid sur France Inter.
Celebrated, also terrified, beyond quantified, over secluded and way over guarded, also idealized, over romanticized, so much to look at and so much to see, can't wait to see you to get rid of me. Can I be on both sides? Will we ever collide? Empty, my flesh is sold. History drained, my heart pained. Hands get dirty every time I touch gold. Ever secluded and way over guarded. Also idealized, over romanticized. So much to look at and so much to see. Can't wait to see you to get rid of me. Can I be on both sides? Will we ever collide? We'll wait for the crash, we'll never go back. I see you, I feel you, the perfect collapse. Can I be on both sides? Thank you.
Both Sides, dernier extrait de l'album Radiate de Jeanne Hadid. Et nous voilà embarqués sur une drôle de planète où l'on croiserait tous les genres et toutes les sexualités. Vous êtes dans Pas son genre et ce soir, en compagnie de l'avocat pénaliste Maître Emmanuel Daoud et de la blogueuse et autrice Sophie Gourion, on se dit que peut-être le combat à mener est aussi celui des mots féminicide. Ça vous dit quelque chose ?
Pas son genre.
Vous avez déjà battu votre femme ?
Des petites gifles, bon, quatre fois rien.
Il y en a qui viennent des fois et sont un peu plus marqués que d'habitude. Alors c'est sûrement un accident de ménage. Elles sont cognées dans une casserole. C'est possible.
Et si vous vous mariez, vous battrez votre femme ?
Si elle en a envie, oui.
Il y a des femmes qui aiment ça par habitude, peut-être. Il y en a qui aiment être battues.
Il y en a qui n'aiment pas.
Il y en a qui ne sont pas battues parce qu'elles n'ont pas besoin d'être battues.
Mais je sais qu'il y a des femmes qui se font battre. Et si je vous disais que moi je bats ma femme, pour qu'elle soit plus gentille et plus amoureuse de moi, qu'est-ce que vous en pensez ?
Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?
Mais j'en pensais que si, mettons, moi si je veux taper ma femme, je suis sûr qu'elle fera mieux l'amour.
Quand le dialogue n'est pas possible, j'ai vu quelques dessins humoristiques avec « Entrez-vous ça bien dans la tête », vous savez, ce dessin avec un marteau. Alors, à certaines femmes, il leur faut leur faire rentrer à coups de poing.
Ah bah c'est sûr, à coup de poing ça rentre mieux. Les Cônes, c'est une archive INA qui date de 1975. 1975, c'est pas si loin. L'époque a-t-elle vraiment changé ? En quoi ? Comment ? Voilà qui nous occupe ce soir pour la première partie de Pas son genre. Sophie Gourion, qu'est-ce que vous vous dites en entendant ces hommes répondre ?
Alors c'est d'une extrême violence, c'est la première chose. Une violence complètement décomplexée. Après je vais peut-être être un peu provoque, je pense que il y a encore beaucoup d'hommes qui pense ça, mais qui maintenant n'ose plus le dire.
C'est ça. Maître Emmanuel Daoud, est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Sophie Gourion ? Est-ce que ça n'est pas tant qu'on ne pense plus ces choses-là, mais qu'on ne les dit plus ? En cours d'assises, par exemple, vous avez entendu des agresseurs, des auteurs de violences conjugales. Est-ce que parfois, on se rend compte que c'est ce qu'ils pensent, finalement ?
Parfois, c'est ce qu'ils pensent, parce qu'on entend « elle m'a provoqué »,« c'est de sa faute »,« elle m'a énervé ». Je lui avais dit, au début j'étais gentil, je criais simplement. Et après, bah, comme elle ne comprenait pas, je l'ai tapé. Et c'est devenu quelque chose de régulier dans ce couple. Cela étant, faut pas oublier non plus que tout ça peut aussi trouver ses origines dans une culture machiste, mais aussi juridique, puisque dans le code Napoléon, il y avait un droit de correction qui était ouvert au mari. Et celui-ci pouvait, parce qu'il exerçait une surveillance tutélaire, disait le texte, frapper sa femme de la même façon que dans le code pénal. Lorsque le mari rentrait chez lui et trouvait sa femme avec son amant, il pouvait les tuer l'un et l'autre immédiatement, et c'était une excuse qui était légitime. Et donc ce crime l'adultère qui était considéré comme un crime, si on le sanctionnait du côté du mari par la peine de mort appliquée immédiatement, c'était quelque chose qui était admis par les cours criminels de l'époque.
Ce qui veut dire qu'on a fait du chemin, mais que ça doit rester quand même quelque part dans un coin de la tête. L'an dernier, Maître Emmanuel Daoud, vous étiez parmi les avocats signataires d'une tribune publiée dans Le Monde pour que le droit change en matière de violence faite aux femmes. Alors ça y est, c'est fait, ça change ?
Il y a encore du chemin à parcourir. La Commission nationale consultative des droits de l'homme a proposé que notre code pénal soit modifié pour que l'on y insère une circonstance aggravante liée au genre pour mieux sanctionner tous les crimes sexistes.
C'était en 2017, hein, c'est devenu...
Exactement. Ouais. Et cette modification n'a pas eu lieu. On va voir si, à la suite du Grenelle, les audits et les réflexions qui sont menées au niveau de la chancellerie vont aboutir à des propositions de modification législative. Mais à l'évidence, c'est une piste qui devrait être... explorée, plus qu'explorée, insérée.
Ce qui est sûr, c'est que depuis MeToo, on a rarement entendu parler de violences faites aux femmes. Je pense au Grenelle que vous évoquiez à l'instant, Maître Daoud, évidemment. Grenelle lancé cette semaine. Mais non seulement on en parle plus, mais surtout on en parle autrement. Ce mot, par exemple, féminicide, ça y est, il est sorti tout récemment du cercle militant pour faire irruption dans les médias et dans le vocabulaire courant. Et ça, c'est notamment grâce à vous, Sophie Gourion. Parce qu'avec votre Tumblr, les mots tuent, depuis quelques années, vous avez décidé de vous attaquer à la question du
vocabulaire. Dites-nous pourquoi et dites-nous comment.
Alors déjà, je pense que le vocabulaire, les mots qu'on emploie sont politiques. Simone de Beauvoir disait « nommer c'est dévoiler et dévoiler c'est agir ». Et je pense que les mots transmettent des valeurs, transmettent des mythes et qu'il est important de choisir les bons mots pour parler des violences sexistes et sexuelles. J'ai ouvert ce Tumblr en 2016 parce
Est-ce qu'on peut rappeler rapidement aux auditeurs de France Inter ce que c'est qu'un Tumblr ?
Oui, alors un Tumblr, c'est une espèce de blog très simplifié où on agrège des articles les uns derrière les autres. Donc j'ai ouvert ce blog en 2016 qui s'appelle Les Mots Tuent. L'idée c'était de montrer que ces expressions drame conjugal, crime passionnel, il l'aimait trop, il l'a tué, étaient loin d'être des perles de journalistes et constituaient une véritable guerre du langage. Mmh. Moi à ce jour j'ai plus de 360 articles qui sont recensés et qui touchent tous les médias sans exception.
C'est-à-dire qu'on vous envoie des articles pour rendre compte de comment exactement ces violences-là sont traitées dans les médias.
Alors au départ, c'était moi qui les recherchais. Et je me félicite de voir que cette problématique est vraiment sortie du cercle des militants, vous le disiez, parce que j'ai maintenant tous les internautes qui me remontent des articles avec le hashtag Les Mots Tuent. Les Mots Tuent sont dans tous les médias grand public. On voit vraiment que c'est une problématique qui sort du milieu militant et qui entre dans le débat public.
Est-ce que vous avez des exemples à nous donner, des exemples de titres qu'on peut lire encore dans la presse aujourd'hui ?
Alors très récemment, Le Parisien avait quand même titré le pas de deux du danseur et de sa compagne pour parler d'un féminicide. Là, c'était la semaine dernière. Ouais. Sinon, on avait Ivre Virgule, il poignarde son ami croyant ouvrir un carton à pizza.
Oui.
Voilà.
On dirait presque des titres du Gorafi, ce compte parodique sur Twitter. C'est-à-dire que ça prête à rire, alors qu'en fait, évidemment que c'est tout sauf drôle.
Mm-hmm. Oui, il y a un ressort comique ou des jeux de mots très très souvent dans les titres. Il y a aussi des motifs complètement farfelus. Il tue sa compagne car il lui reproche d'avoir mis la télé trop fort. Voilà.
J'avais vu aussi sa purée à des grumeaux. Il la tue. C'était sur votre Tumblr. Ouais. Où Ma femme, le titre était « Ma femme ne sert à rien, prétend le champion des baffes ». Qu'est-ce que ça peut avoir comme effet, ça, sur les mentalités, sur les lecteurs de la presse, Maître Emmanuel Daoud ?
Évidemment, une banalisation regrettable, le fait que tout ça est mélangé, qu'on ne reconnaît pas la spécificité d'un crime qui est lié au sexe et au genre, et donc c'est pas admissible. Et là, il faut que les médias battent leur coude, mais aussi que les professionnels travaillent sur la façon de verbaliser les choses. Après, je suis avocat. Si je dois défendre un homme qui a tué sa femme parce qu'elle était sa femme, parce qu'elle était sa propriété, qui considérait qu'elle était sa propriété, et que lui, avec ses mots, dit « je l'aime, c'est un crime passionnel, je ne voulais pas qu'elle me quitte », alors même qu'il n'a pas lui-même identifié le chemin qui l'a conduit à tuer celle qui était devenue en réalité son objet. Je m'exprime comment devant la cour d'assises pour porter correctement sa parole ? Est-ce que je dois me dédoubler pour à la fois le défendre et porter ces mots qui sont d'une gravité certaine et qui nient cet aspect-là des choses que nous sommes en train d'examiner, et en même temps essayer de faire œuvre de pédagogie. C'est compliqué dans une enceinte judiciaire. Bon, on fait comme on peut et on essaye d'y arriver. En revanche, lorsqu'on s'exprime dans le champ public, que ça soit les médias, vous journalistes, nous professionnels, quelles que soient nos activités professionnelles, on doit vraiment faire attention, parce qu'il n'y a pas simplement les auditeurs et les auditrices d'un certain âge ou adultes qui nous écoutent. Il y a aussi les enfants, mais on peut aller plus loin aussi. Enfin, je ne sais pas si on va l'examiner. Il y a, par exemple, dans les YouPorn, les RedTube, il y a une culture du viol aussi.
Bien sûr.
Et il y a une culture de la violence, donc c'est quand même
relatif. On ne sait pas par où commencer, quoi.
Enfin, on peut avoir des pistes de traitement sur le plan judiciaire, en tout cas.
On va y revenir. Comme vous, Sophie Gourion, les militantes féministes se sont emparées du mot féminicide il y a quelques années déjà, mais leur visibilité est nettement plus grande depuis MeToo. Et sur la question des violences conjugales, les rassemblements sont multipliés ces derniers mois. Mercredi 28 août, sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Paris, elles étaient une nouvelle fois rassemblées à la tribune. Celle qui n'hésite jamais à prendre le micro pour dire son indignation, la comédienne Eva Darlan.
Dans la mythologie des crimes, quand un homme tue sa femme, c'est par amour. Toujours. Il la tue parce qu'il l'aime, comme on fait toujours quand on aime. Il la tue principalement parce qu'elle le quitte, ou parce qu'elle le trompe, ou parce qu'il croit qu'il la trompe, ou au cas où un jour elle le tromperait, il la tue parce qu'elle est sa chose, qu'il a le droit de vie ou de mort sur elle comme sur ses enfants. Et non, un homme violent n'est pas un bon père. Il la tue parce que c'est comme ça, parce qu'on lui a appris que c'était possible. Dans la mythologie des médias, on appelait ça un fait divers. Un chien écrasé, une femme égorgée, c'est kiff-kiff. C'est écrit en petit dans une colonne difficile à trouver, en bas à gauche. Un fait divers, parce que c'est banal, c'est courant et ça n'a pas d'importance. Puis, on est passé au crime passionnel, au drame familial. Et on peut encore trouver dans certaines feuilles de choux une dispute entre époux qui a mal tourné.
Des propos recueillis par Thibault Lefebvre. Sophie Gourion, vous qui scrutez la presse depuis des années donc sur ce terrain-là, ça change quoi très concrètement? Qu'est-ce que ça signifie que les violences conjugales ne soient plus sortent des pages faits divers? Qu'est-ce que ça raconte?
Ça raconte qu'on n'est plus dans un fait isolé, mais qu'on est dans un vrai fait de société. Ça donne vie, ça donne corps au caractère systémique de ces crimes qui, comme disait Eva Darlan, se trouvent trop souvent dans la rubrique fait divers, alors que ce sont des faits de société.
Quand vous dites caractère systémique, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que ces femmes sont tuées parce qu'elles sont femmes? Parce que ça, c'est une notion que certains, parfois, ont du mal à comprendre.
Oui, elles sont tuées parce qu'elles sont femmes. Il ne s'agit pas là d'un crime passionnel, mais d'un crime possessionnel. La séparation, c'est le deuxième mobile le plus fréquent lors d'un féminicide. Donc, les hommes tuent parce que les femmes leur échappent, et les femmes tuent pour se défendre, parce que la plupart des femmes qui tuent étaient victimes au préalable de violences conjugales.
Je vais juste donner les chiffres de 2018. 149 morts violentes au sein du couple, 121 sont des femmes, soit 80%. La moitié des hommes tués par leur compagne étaient auteurs de violence sur elle.
Exactement. L'idée, c'est de vraiment montrer que c'est au-delà de la simple petite histoire de dispute de couple, au-delà de la sphère intime, qu'il s'agit vraiment... l'Espagne parle de terrorisme conjugal. Moi, je trouve que cette expression est très pertinente. Si aujourd'hui, 102 femmes, comme c'est le cas aujourd'hui, étaient tuées par des inconnus dans la rue au nom d'une idéologie, parce que pour moi, le sexisme, c'est une idéologie, eh bien, le gouvernement mettra en place l'état d'urgence. Et là, je pense qu'on est en état d'urgence.
Le mot Emmanuel Daoud est entré dans le dictionnaire en 2015. Est-ce que ça signifie qu'on prend conscience, comme le dit Sophie Gourion, du caractère systémique de ces violences-là? Le féminicide est un crime qui n'est pas comme les autres.
On le prend en considération et je me permets d'inviter tous vos auditeurs et auditrices de lire cet avis de la Commission consultative nationale des droits de l'homme, parce qu'elle dit il faut utiliser ce terme dans l'espace public, il faut l'utiliser dans le langage diplomatique international. Donc c'est une recommandation qui est adressée au pouvoir public pour reconnaître le caractère massif de ces crimes, caractère massif qui indique que l'on est toujours dans un rapport de domination systémique qui n'a pas encore évolué suffisamment pour que les mentalités changent et que...
C'est-à-dire qu'au sein du couple, toute la société fait qu'au sein du couple, le rapport homme-femme est déséquilibré. C'est ce que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de force qui est qui va toujours dans le même sens.
En tout cas, c'est le schéma classique de la représentation du couple. Je ne pense pas qu'on puisse dire que dans tous les couples, ça fonctionne ainsi.
Ce que je veux dire, c'est que la société tout entière, parce que les femmes, je ne sais pas, n'ont pas le pouvoir économique, parce qu'elles n'ont pas encore le pouvoir politique, parce qu'elles ont moins d'indépendance financière, etc., sont de ce fait-là fragilisées, c'est ce que
exactement.
Vous voulez dire.
Exactement, et ce combat contre ces crimes sexistes, contre les féminicides, participera aussi d'une réalité égalité entre les hommes et les femmes. Et c'est même une condition essentielle. Tant qu'on n'aura pas traité de façon efficace ce type de criminalité de masse, on n'arrivera pas en réalité à avoir une égalité entre les hommes et les femmes et à porter cette égalité dans toutes les strates de la société.
Alors en la matière, voici une affaire assez emblématique. En octobre 2017, souvenez-vous, le corps en partie calciné d'Alexia Daval est retrouvé dans une voiture en Haute-Saône. Son mari, Jonathan Daval, émeut d'abord, tant il semble désespéré, puis il intrigue et puis ses déclarations se contredisent. Trois mois plus tard, le 30 janvier 2018, il passe aux aveux et est mis en examen. Notre confrère Laurent Doulsan couvrait l'affaire pour Radio France.
Ce qu'il faut retenir ce soir, c'est cette qualification de meurtre qui est retenue par la justice contre Jonathan Daval. Le juge d'instruction l'a mise en examen pour meurtre sur conjoint, un crime passible de la réclusion criminelle à perpétuité. Ses avocats espèrent à terme une requalification des faits en coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
Qu'est-ce qui bouge à ce moment-là, Sophie Gourion, dans les esprits, dans l'engage médiatique aussi avec l'affaire Daval ?
Il y a en effet un avant et un après affaire Alexia Daval. Il faut dire que la couverture médiatique a été assez déplorable de cette affaire. Les propos de la défense ont été mis en titraille sans aucune contextualisation. Parfois même sans guillemets.
Donc on disait quoi ?
Donc on disait que Alexia Daval avait une personnalité écrasante, que le meurtrier était rabaissé, qu'elle pouvait avoir des accès de violence et surtout qu'il y avait deux victimes dans cette affaire. C'est ce qu'a dit l'avocat. Donc ces propos étaient repris tels quels, sans contextualisation, sans rappeler le nombre de féminicides. Et donc il y a eu vraiment une mobilisation au-delà des cercles militants sur cette question. La ministre Marlène Schiappa en a parlé, a dénoncé la couverture médiatique. Et les médias, je dirais pas forcément militants, les médias grand public, les magazines féminins, se sont quand même emparés de ce traitement journalistique pour le dénoncer.
Il y a une tribune en juillet dernier, Maître Emmanuel Daoud, de familles de victimes, de proches de victimes de violences conjugales, qui demandait l'inscription du mot féminicide dans le code pénal, comme c'est déjà le cas dans un certain nombre de pays, hein, au Mexique, au Costa Rica, en Espagne, etc. Avec, donc, ça entraînerait la création d'une justice spéciale, des tribunaux spécialisés, des professionnels spécialisés, etc., etc. Vous en pensez quoi ? Est-ce qu'il faut en faire un crime spécifique ?
Alors nous aurons peut-être l'occasion de parler de l'association Alpha Women.
Alors Alpha Women, c'est votre association, donc c'est Lawyers for Women, donc des avocats pour les femmes.
Ouais. Exactement. Ce débat, nous l'avons au sein de cette association et nous ne sommes pas d'accord entre nous sur le point de savoir s'il faut inscrire ou pas le féminicide dans le code pénal. Pourquoi ? Parce que nous, pour certains d'entre nous, nous considérons qu'il faut faire que cela porterait atteinte au principe d'universalité du code pénal.
C'est-à-dire que tout le monde on est tous égaux.
Qu'on doit pas faire justice, de différence entre les hommes et les femmes. Si je voulais, pas pour faire de la polémique, mais ce qu'on va dire bientôt, alors qu'il y a des circonstances aggravantes en matière de crimes à caractère xénophobe, raciste, est-ce qu'on va dire les arabicides, les noiricides bon. C'est une option. L'autre option, c'est de dire il faut l'insérer dans le code pénal parce que c'est la seule façon de reconnaître ce caractère systémique que vous mettiez en évidence tout à l'heure, Sophie, parce que la qualification d'homicide est une qualification qui ne restitue pas suffisamment le fait que le crime a été commis par un homme contre sa femme parce qu'elle était sa femme. Et que, en quelque sorte, l'homicide serait, cette qualification pénale serait incomplète pour identifier la spécificité du crime de féminicide. Et d'autres disent, dont je fais partie pour le moment, mais là, on peut tous évoluer évidemment, c'est de dire finalement, il faut plutôt insérer des circonstances aggravantes, comme cela existe pour d'autres qualifications pénales, et on tiendra suffisamment compte sans remettre en cause...
Et aussi mieux former les avocats, les
magistrats...
Oui,
bien sûr, j'espère qu'on en parlera aussi, si on a le temps. Mais voilà, donc ce débat nous...
Pour le coup, ça, c'est la base, quoi.
C'est la base. Mais ce débat nous traverse notre association Lawyers for Women.
Et il est passionnant, mais l'heure court, il y aurait tant et tant à dire sur le sujet, on y reviendra évidemment dans Passons Genre. Dans notre seconde demi-heure, on parle football féminin et thérapie de conversion. Pour l'heure, on décolle avec celui qui embrassait tous les genres, sautait dans toutes les flaques, jouait avec les cadres et se moquait des codes comme personne. David Bowie, évidemment, on est en 1972 et ce titre, c'est Changes. Still don't know what I was waiting for, and my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of
how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes.
Turn and face the strange.
Changes. Don't wanna be a richer man. To be a different man, time may change me, but I can't trace time. Ooh, yeah. I watch the ripples change the size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes. Turn and face the strange.
Changes. Don't tell them to grow up out of it.
Changes. Turn and face the strange.
Changes. Where's your shame? You've left us up to her next to me. Time may change me. You can't twist time. Strange fascination.
Accompagné par l'immense David Bowie, ils viennent de nous rejoindre sur les ondes de France Inter aux côtés de Sophie Gourion, autrice jeunesse, et de Maître Emmanuel Daoud, avocat pénaliste. J'ai le plaisir de recevoir ce soir dans la bande de Passons-Genre Marie Kirchen, journaliste spécialiste des questions féministes et LGBT, rédactrice en chef du site Les Inrocks. Bonsoir Marie.
Bonsoir.
Passons-Genre non plus, Clarence Edgar-Rosa, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste et autrice, vous aussi, vous avez publié cette année Connais-toi toi-même, guide d'auto-exploration de l'anatomie féminine. Oui, car le féminisme chez vous, ça passe par la tête, certes, mais aussi par le cœur, par le ventre et plus bas, c'est ça ?
Absolument.
C'est un peu l'idée. Il est avec nous, lui aussi, jusqu'à 21h. Thomas Messias, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous, le jour, vous êtes prof de maths dans un lycée de Roubaix, et le soir, vous montez les épisodes de votre podcast Mindsplaining, donnant au passage quelques petits coups de pied aux fesses d'une certaine virilité à la papa, c'est ça ?
Exactement.
Ok, et ben on est bon. Vous avez tous passé la semaine à scruter l'actualité à travers le prisme du genre et des sexualités. On va voir tout de suite. Est-ce que vous en avez retenu ?
France Inter, Passons-Genre.
C'est vous qui ouvrez le bal, Clarence Edgar-Rosa. Votre actu de la semaine, c'est une histoire assez savoureuse, en tout cas je l'adore. Elle se passe aux États-Unis, en Caroline du Sud. Plus exactement, racontez-nous s'il vous plaît.
Eh bien, je voudrais vous parler d'un coming out. Moi j'adore les histoires de coming out, ça m'émeut toujours. Terriblement.
Ah oui,
ça me donne des frissons, je trouve ça très beau. C'est des moments puissants, j'aime les voir sur YouTube, j'aime les entendre quand on les raconte, j'adore ça. Ça m'émeut beaucoup, mais celui-là, il a provoqué chez moi une autre émotion, un autre type de réaction. C'est le coming up d'un homme qui s'appelle McRae Game. Et c'est le fondateur de l'une des plus grosses thérapies de conversion aux États-Unis. Mmh. Est-ce que vous savez ce que c'est ?
Alors expliquez-nous, rappelez-nous. Comment se passent ces fameuses thérapies de conversion ? Il y a eu un film l'an dernier avec Russell Crowe et Nicole Kidman. Donc ça y est, on commence à se faire à peu près une idée. C'est en train de sortir du bois, ça aussi.
Tout à fait. On commence à s'en faire une idée très américaine par contre. Donc c'est intéressant on va en reparler tout à l'heure. Mais donc en fait, c'est des stages pour guérir, entre guillemets, bien entendu, les homosexuels de leur déviance, toujours avec des guillemets. Et en fait, pour les ramener vers le droit chemin, qui est évidemment un chemin pavé de petites mousses et qui sent bon la noisette, qui est le chemin qui mène au paradis. Ces thérapies de conversion, c'est des choses qui existent surtout aux États-Unis, mais aussi en France. Et cet homme-là, en 99, il a donc fondé une organisation qui s'appelle Hope for Wholeness, qu'on pourrait traduire par espoir de plénitude, voilà, dont le slogan était se libérer de l'homosexualité grâce à Jésus-Christ, tout un programme.
Maître Emmanuel Daoud est mort de rire à côté de vous.
C'est vrai que c'est drôle, je vous avais parlé d'un autre type d'émotion, hein. C'est pas les frissons, c'est autre chose, on a envie d'en rire. Parce qu'effectivement, 20 ans plus tard, à 51 ans, il a écrit sur Facebook « J'avais tort, pardonnez-moi, émoji cœur ». C'est vrai que c'est drôle. Pourtant, il n'est pas du tout le premier. Il y en a eu plusieurs avant lui aux États-Unis. Et effectivement, en France, c'est quelque chose qui existe aussi dans une moindre mesure. Il y a d'ailleurs une mission parlementaire qui a été lancée cet été à ce sujet. Il est question de légiférer là-dessus. Et en fait, moi, il y a 5 ans, je me suis infiltrée dans un stage d'été.
Mais non.
Si, c'était terrible. C'est une
Alors, comme journaliste ou comme
comme journaliste.
Vous travaillez, c'était votre travail.
C'était un travail. Okay. Mais c'était un épisode vraiment traumatisant de ma vie de journaliste.
Racontez-nous ce que vous avez vécu.
Je suis partie dans un stage d'été. Épisode terrible, c'est un stage qui est organisé par un groupe évangélique qui ne dit jamais vraiment sa mission. Donc en fait, pour ce groupe, les homosexuels n'existent simplement pas. On est dans une négation totale juste d'une autre forme d'orientation sexuelle que l'hétérosexualité. Et donc du coup, c'est très subtil, mais c'est absolument terrible.
Alors cette mission parlementaire voudrait interdire ces thérapies de conversion, sauf que si j'ai bien compris, ce qui est compliqué en France, c'est que contrairement aux États-Unis où elles ont pignon sur rue, en France, ça se passe dans le plus grand secret, c'est souvent dans le secret des familles.
Alors, secret non, parce que ces associations-là, pour le coup, elles ont des sites internet qui expliquent ce qu'elles font. Après, elles les expliquent de façon extrêmement subtile. Donc, il est jamais question de guérison de l'homosexualité. On parle plutôt d'un voyage vers une hétérosexualité plus saine, etc. On est sur des choses comme ça. Donc, c'est plus subtil. Et puis surtout, sur place, on se rend compte qu'effectivement, personne ne se dit gay. Personne ne va vous dire, moi je suis là parce que effectivement, je suis homosexuel, puisque ça n'existe pas dans ces cercles.
Et puis on ne sait surtout pas évaluer l'impact de ces thérapies de conversion. Aux États-Unis, on le sait, elles ont touché 700 000 personnes, je crois.
Absolument.
Marie Kirchen, je vous vois hocher la tête vigoureusement. Qu'est-ce que ça vous inspire, l'histoire de ce coming out?
C'est triste. Après, sur la France, je pense que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il n'y a pas forcément que des groupes religieux. Il peut aussi y avoir des psys, par exemple, qui complètement à tort, donnent l'impression à leurs patients qu'ils ou elles peuvent changer, faire évoluer leur orientation sexuelle. Et moi, je pense que c'est important de rappeler que ce n'est pas possible. Et voilà. Et donc c'est voilà.
Sur la page Facebook de McCreagy figure désormais un drapeau arc-en-ciel et une autre devise : apprenez à vous aimer et à aimer les autres. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Allez. Thomas Messias, vous n'êtes pas venu les mains vides, vous non plus. Vous êtes venu avec un extrait du dernier spectacle de David Chappelle, l'humoriste américain. Spectacle qui s'appelle Stick and Stones. Alors, pour replacer un petit peu les choses dans le contexte, il revient au début de l'extrait qu'on va entendre sur l'éviction de son camarade Kevin Hart de la présentation des Oscars. Kevin Hart avait été mis hors jeu pour des tweets homophobes. On va lancer l'extrait, je vous laisse traduire à la volée, ça vous va?
Allons-y.
Eh bien, on y va.
Ce que je n'avais pas saisi à l'époque, et que Kevin a appris à ses dépens, c'est qu'on enfreignait une règle tacite du showbiz. Si je le dis, vous saurez que c'est vrai. Selon cette règle, dans le cadre de votre expression artistique, vous ne devez absolument jamais offenser les gens de l'alphabet. Vous voyez de qui je parle. Les gens qui ont accaparé 20% de l'alphabet. Je dirais bien les lettres, mais je redoute leur colère. Trop tard. Je parle des L, des B, des G et des T.
Cet extrait, c'est donc votre actu de la semaine. Hein. Thomas Bessias, dites-nous pourquoi.
Donc c'est un spectacle qui est proposé en ligne actuellement par Netflix. Et Dave Chappelle, dedans, se fait vraiment plaisir puisque, entre autres, hein, outre ce passage, il défend aussi son ami Louis C.K. qui a été convaincu pour des faits assez graves. Notamment, il s'est masturbé devant des comédiennes sans leur consentement. Il parle également de pédophilie.
Depuis quand on demande leur consentement, franchement,
ça, on est bien d'accord.
Surtout dans le cadre professionnel, c'est sympa.
Franchement, quel est l'intérêt?
Mais voilà, il fait des blagues sur le fait que Chris Brown a commis des violences contre Rihanna. Enfin, rien nous est épargné. Et notamment, il y a ce passage et un long passage après sur le fait que on ne peut plus rien dire, ma bonne dame, et que notamment ce sont à cause de ces L, B, G, T, ensuite il en rajoute sur les queers, etc., etc. Ce sont à cause d'eux qu'on ne peut plus rien dire parce qu'ils sont tout le temps sur le dos des pauvres humoristes qui ne peuvent plus faire leur beurre des blagues homophobes ou transphobes. Et s'ensuivent dix bonnes minutes de blagues notamment sur les personnes transgenres. Et il nous explique notamment que des fois les personnes transgenres lui en veulent, mais que c'est aussi un peu de leur faute à elles parce que quand même elles sont parfois un peu ridicules, quoi.
Oui, quand même. Oui. Alors, ça me fait penser effectivement à une autre polémique qui existe en ce moment en France, un autre débat, c'est plusieurs matchs de foot interrompus suite à des chants homophobes. Une rencontre qui était prévue hier entre des associations de supporters, vous allez comprendre le lien, et des associations de lutte contre l'homophobie a été finalement reportée. Mais quoi qu'il en soit, on commence à parler de ça, à savoir quelles sont les limites de la liberté d'expression. Et surtout, est-ce que, avec cette fameuse question qui paraît lunaire balancée comme ça, mais est-ce que enculé, c'est homophobe ? Vous en pensez quoi ? Est-ce que c'est bon enfant ? Les supporters vous disent « Oh, après tout, c'est des chants, hein, Clarence Edgar Rosa ?»
Oui, c'est homophobe, bien entendu, c'est homophobe. Enfin, c'est un sujet qui est immense, le sujet de l'humour oppressif. Le fameux argument de « on ne peut plus rien dire », c'est tellement banal. Je veux dire, j'arrive même pas à croire qu'il peut encore être donné aujourd'hui.
On l'entend de plus en plus depuis deux ans. Depuis deux ans, on entend dire qu'on va rentrer dans une police de la pensée, dans un puritanisme à l'américaine, justement. Attention à la dictature du politiquement correct, etc.
Mais ces blagues, elles ont un impact réel, en fait, sur les gens qui les entendent. C'est réel, ça a d'ailleurs été mesuré. J'ai pris connaissance d'une étude qui a été menée par un chercheur en psychologie aux États-Unis, en fait, qui a travaillé sur l'impact de l'humour oppressif sur les personnes, pas comme toi, Julia, ou comme moi, mais les gens qui sont déjà assez peu enclins, en fait, à défendre un groupe dont ils font pas partie. Donc, typiquement, ils ont essayé de sonder le degré de féminisme ou de misogynie d'un groupe d'hommes. Ils ont essayé de définir s'ils aimaient bien les femmes et s'ils avaient envie de les défendre ou non. Et ils se sont rendus compte que, ceux qui étaient relativement féministes, les blagues sexistes n'avaient aucun impact sur eux. Mais par contre, ceux qui étaient déjà assez misogynes, ils l'étaient encore plus après. Donc, ça a un impact qu'on peut calculer.
Thomas Messias ?
Mais en plus, moi, en regardant ce spectacle qui a été assez douloureux, j'ai aussi observé le public. Mmh. Et on sent un public qui se réjouit non seulement des blagues, qui prend beaucoup de plaisir, mais on sent un public qui se sent... actuellement, les résistants, c'est eux. On est les résistants contre le politiquement correct. Donc, on adore les blagues contre les trans, contre les personnes transgenres, contre les gays, contre les lesbiennes. On adore ça et ça nous fait du bien parce qu'on n'a plus le droit de le dire en dehors de cette salle. C'est un petit peu comme quand les antisémites étaient tous en masse devant les spectacles de Dieudonné et qu'ils avaient l'impression que c'était là leur lieu d'expression, leur terrain.
C'est une vraie rébellion, quoi. Ouais. Et on en reparle quand il y aura des blagues sur les hommes hétéros cisgenres. Maître Emmanuel Daoud, un mot, ce que dit la loi, par exemple, pour un sketch comme celui de David Chappelle ou pour les chants de supporters ?
La loi en France.
Ouais.
La loi punit les comportements ou les propos à caractère homophobe ou raciste.
Donc David Chappelle, en France, il est sanctionné ?
David Chappelle pourrait, le cas échéant, être poursuivi. Et ensuite, il va falloir démontrer devant un tribunal. Et c'est toute la difficulté.
C'est compliqué de dire. Oui, mais parce que sa défense, se dire c'est de l'humour, hop là, on clôt le débat.
C'est toute la difficulté à laquelle a été confrontée la justice s'agissant de Dieudonné. Mmh. Mais finalement, les tribunaux ont fini par sanctionner les propos antisémites de Dieudonné. Et il faudra voir si, dans le cadre de poursuites qui seraient engagées contre ce type, par exemple, contre Netflix, est-ce que, en France, il faudrait ou pas engager la responsabilité pénale de Netflix pour diffuser ce type de sketch. En tout cas, la loi pourrait le permettre.
Clarence Edgar Rosa fait la loi pourrait
le permettre. Est-ce qu'ensuite le parquet et le tribunal qui sera saisi considérera qu'on s'est allé contre la liberté de création, la liberté d'expression artistique, la licence d'expression artistique? Je peux pas répondre à cette question. En tout cas, le support technique juridique, il existe. Les associations qui sont spécialisées, qui par exemple défendent des intérêts collectifs des homosexuels, pourraient s'emparer de cette affaire que vous avez mis en évidence. Et pour faire un test, le droit aussi doit être utilisé comme un outil pour faire progresser les consciences. Et chacun trouvera à s'exprimer devant une juridiction pénale. Je rappelle que Baudelaire a été poursuivi pour les fleurs du mal. Enfin, le procès de Baudelaire est très intéressant. On revoit des concepts qu'on pourrait appliquer aujourd'hui.
Alors, il y a un concept qu'on entend beaucoup aujourd'hui et qui pourrait s'appliquer aux réactions autour du sketch de David Chappelle, en tout cas ceux qui le défendent. C'est peut-être ça, finalement, le mansplaining, ceux qui disent on ne peut plus rien dire, on est victime du politiquement correct, etc., etc. J'en profite pour signaler que le dernier épisode de votre podcast Mansplaining, Thomas Messias, est en ligne depuis mercredi. Vous le consacrez aux hétéros qui jouent aux homos dans les films et c'est à écouter absolument sur slate.fr. Last but not least, Marie Kirchen, l'info qui a retenu votre attention, vous, cette semaine, c'est la grève des footballeuses jamaïcaines, mouvement de grève sur fond de revendications salariales.
Ah, exactement. Donc, elles ont décidé de se mettre en grève. Donc, c'était mardi 3 septembre. Et alors, pourquoi la grève? Parce qu'elles veulent être payées pour leur participation à la Coupe du
Mais
Monde.
Non. Alors, déjà qu'il faut exprimer son consentement, si en plus, il faut être payé quand on travaille.
Voilà, ça va, ouais. Je précise bien que donc, c'est pas une question d'égalité salariale, c'est juste tout bêtement être payé tout court.
Donc, est-ce qu'elles ont dû se payer leur billet d'avion eux-mêmes en plus?
L'histoire ne le dit pas, mais peut-être. Donc en fait voilà, alors, ce qui s'est passé c'est qu'elles ont juste avant le début du mondial 2019, donc qui s'est déroulé en France l'été dernier, elles avaient réussi à obtenir auprès de leur fédération d'être payées pour la toute première fois, c'était pas le cas avant. Donc super, mais visiblement la fédération rechigne et traîne des pieds, donc elles ont toujours pas été payées. Donc mardi dernier, elles ont inondé les réseaux sociaux de messages avec le slogan No Pay No Play, donc ouais. Ça veut dire pas de paye, pas de match. Ouais. Donc, il y a l'attaquante vedette, donc c'est Khadija Chaud, qui par ailleurs joue au Girondins de Bordeaux en France, qui a expliqué sur son Instagram, alors je cite, « Nous avons fait beaucoup de sacrifices pour porter les couleurs de la Jamaïque. Ce n'est pas juste pour l'argent, c'est pour le changement, pour changer la manière dont le football féminin est vu, en particulier en Jamaïque. Nous méritons plus et ils peuvent faire mieux. Pour cette raison, moi et mes coéquipières ne participerons à aucune autre compétition sans être payées. » Donc, la fédération jamaïcaine s'est défendue. Alors, elle, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a déjà payé un petit peu, puis que c'est tout à faute de la FIFA, qui n'a pas versé l'argent qu'elle aurait dû. Mais clairement, ça n'a pas l'air de convaincre vraiment les joueuses jamaïcaines, qui d'ailleurs ont été défendues aussi par d'autres joueuses, des américaines, ouais. Megan Rapinoe ouais. et Alex Morgan. Voilà, alors ouais. je parle d'elles. Parce que justement, c'est
parce que vous les aimez, parce que vous êtes fan, oui. et puis voilà.
Qui n'aime pas Megan Rapinoe.
Voilà, c'est un peu ça. Je rappelle capitaine
c'est la
de l'équipe
reine ultime.
De foot féminine américaine, donc victorieuse de la dernière Coupe du Monde. Voilà, ça c'est dit.
Exactement. Et par ailleurs, c'est vraiment deux joueuses qui sont en première ligne sur toute la bataille pour l'égalité salariale. Mmh. Donc là, je parle bien d'égalité salariale. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, les joueuses américaines sont moins payées que les joueurs masculins.
C'est très étonnant.
De l'équipe nationale. Bah, alors, je sais que des gens pourraient dire oui, mais
je
le
suis railleuse.
Foot, c'est un truc de mec.
Oui, et puis on entend beaucoup ça, parce que c'est vrai que ces mouvements de grève ou de protestation, c'est des mouvements qu'on a vus, par exemple, au Nigeria, qu'on a vus effectivement aux États-Unis, et à chaque fois, on nous répond, qu'on a vu en France, hein, lors de la dernière Coupe du Monde, à chaque fois, on nous répond oui, mais le foot génère moins de recettes quand ce sont des femmes qui jouent que des hommes. Donc, il y a moins d'argent, donc elles sont moins payées, c'est normal.
Alors oui, sauf qu'aux États-Unis, pour le coup, les joueuses sont plus connues que leurs homologues masculins.
C'est vrai.
Parce qu'elles ont gagné 4 titres mondiaux sur 8 organisés pour les femmes, qu'elles ont eu 4 titres olympiques, alors que les joueurs masculins, 0. Voilà, donc pour le coup, elles mériteraient largement d'être au moins aussi bien payées, ce qui n'est pas le cas.
Si vous permettez, pardon, sur ce
Maître
point,
Manuel Damoud, oui.
C'est ce qui est étonnant, parce qu'on a eu la Coupe du Monde féminine en France, et on a dit qu'il y a un engouement véritable qui s'est créé, que les femmes étaient présentes dans les stades, et c'est une bonne chose. Allez voir maintenant les stades du championnat de France de football féminin, et regardez combien il y a d'hommes ou de femmes qui fréquentent ces stades, et vous verrez que cet engouement a été extrêmement passager. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aussi une économie du foot, et que la question qui se pose, elle est un peu plus nuancée. Quand on porte le maillot de la sélection nationale, il devrait y avoir une égalité. Mmh. Quand on est dans des enjeux qui sont commerciaux, peut-être qu'il y a un distinguo à faire.
Alors vous parlez d'engouement passager, en même temps l'impact peut-être être un peu plus profond que ça. Très rapidement, Sophie Gourion, oui. dites-nous, vous qui venez de publier un livre pour aider les petits garçons et les petites filles à lutter contre les stéréotypes sexistes, les filles slash les garçons peuvent le faire aussi. Est-ce qu'on sait, par exemple, si la Coupe du Monde, qui a battu des records d'audience et des records de fréquentation cette année, Coupe du Monde de foot féminin, est-ce qu'on sait si ça a eu un impact?
Oui, oui, clairement. Clairement, ça a eu un impact. Apparemment, il y a eu un afflux de petites joueuses qui se sont inscrites dans les clubs. Moi, j'ai vu plein de petites filles dans les rues porter des maillots sans qu'on leur dise que ce sont des garçons manqués. Mmh. En revanche...
Ce qui, par ailleurs, n'est pas grave d'être un garçon manqué.
Ouais,
enfin, le terme est maladroit.
Oui, le terme.
Après, l'expression pour en faire une émission entière,
ouais,
quand même.
Ouais, ouais, ouais. Là, si on s'intéresse au mot, ouais, c'est quand même pas terrible. Donc, en effet, l'idée aussi du livre, c'est de dire qu'il n'y a pas de sport de filles, qu'il n'y a pas de sport de garçons, que les garçons peuvent faire de la danse classique. En revanche, c'est plus compliqué pour un garçon, en fait, de s'aventurer dans les terrains dits féminins, parce qu'il y a forcément toujours un soupçon d'homosexualité, de déviance. Et la couverture de livre,
on
en fait...
On a qu'à les envoyer en thérapie de conversion, non?
Ouais, voilà, c'est ça.
Sophie Gourion, vous viendrez nous parler de votre livre. Évidemment, Marie Kirschen, No Pay, No Play, les footballeuses jamaïcaines se mettent en grève. C'est un article à lire sur le site des Un Rock, où l'on trouve également cette très belle enquête « Comment les femmes réfugiées tentent de lutter contre le déclassement ». Rendez-vous sur www.lesunrock.com. Il nous reste moins d'un quart d'heure à passer ensemble sur France Inter, alors on va se mettre bien. À la technique de Passons Genre, ce soir, Paul Percheron, à la réalisation, Marianne Crimbaud, attachée de production, Romy Engels, programmateur musical, Thierry Dupin. Tout de suite, Nekfeu, Vanessa Paradis.
Dans l'univers, il y a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux.
T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis tata par le vice, mais c'est toi que je veux.
Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais des choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
Pourtant, dans l'univers, y'a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. Obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais des choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sépare.
Et même si notre amour raté devait renaître demain, elle m'a dit jamais je ne remettrai mon cœur entre tes mains. Jamais, jamais, n'oublie pas que quand tu l'avais, tu ne m'as laissé que du mal-être et des marques. On était jeunes, on pensait que s'aimer c'était se traiter mal. Pourtant dans l'univers y'a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais les choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
On se dégoûte, on se combat jusqu'à ce qu'on bouffe les pissenlits. Notre couple succombe, ce désir puissant puis s'ennuie. Et le désir disparaît en même temps que la possession. Et les femmes de ma vie défilent en une étrange procession. J'y passerai seule la nuit sous le trait d'un jeune homme entier. Quand la lune dort, le soleil lui, moi je ne vois qu'elle.
Quand l'éternelle princesse de la pop française Vanessa Paradis se maque le temps d'un duo avec un jeune loup de la scène rap Nekfeu, ça donne dans l'univers. Comme quoi, ça marche les alliances contre nature.
Pas son genre. Julia Foyce.
Imaginons un monde où l'on puisse se réinventer, où les sexes ne seraient pas assignés à résidence, où les genres seraient mouvants, où on en ferait ce qu'on veut. Ce monde-là, c'est le nôtre. Non, pas son genre, c'est le vôtre, vous qui nous écoutez. C'est celui aussi de nos invités. Sophie Gourion, on vous a demandé, en préparant cette émission, ce qui pour vous racontait au mieux votre féminin à vous, rien qu'à vous. Et vous êtes venue avec...
Mon clitoris.
Je vous aime, Sophie Gourion, je vous aime tellement. Vous placez la barre très très haut pour les prochains invités. Expliquez-nous.
Alors, en tant que femme cisgenre, j'ai un sacré privilège. Je dispose du seul organe humain uniquement dédié au plaisir. Donc cet organe, je l'ai connu sur le tard, coucou les années 70, car à mon époque, personne n'en parlait. Il a fallu attendre 2017 pour que cet organe figure dans les manuels scolaires. Vous vous rendez compte? Donc aujourd'hui, je veux lui rendre hommage parce que mon pauvre clitoris a été accusé en des temps pas si lointains de provoquer l'hystérie, la jaunisse ou l'épilepsie. Et aujourd'hui encore, il est mutilé. Plus de 200 millions de femmes sont excisées dans le monde. Donc je l'affirme haut et fort, ce soir, gloire à mon clitoris.
Gloire à vous et gloire à votre clitoris. Je vais vous demander, vous disiez que vous aviez pris conscience de l'existence de votre clitoris sur le tard, mais par contre, l'existence, la conscience du fait que vous étiez une femme, cela dit, ça allait peut-être avec, ou l'émergence d'une conscience féministe, c'est arrivé quand, c'est arrivé comment?
L'émergence de quand je me suis sentie femme, j'arrive pas trop à le savoir en fait. Parce que quand je revois des photos de moi, j'ai pas trop les attributs petites de ce qu'on appelle l'éternel modèle féminin. J'avais les cheveux très courts, je jouais au foot, j'avais des salopettes. Enfin voilà, je ne correspondais pas aux attributs féminins très genrés d'aujourd'hui. Pourtant, j'avais l'impression d'être une petite fille. Quand est-ce que je suis devenue féministe ? Quand j'ai eu des enfants, en fait. Parce que je me suis rendu compte déjà que je n'existais plus que par mon ventre, aussi bien pour les médecins que pour les gens qui m'entouraient. J'ai eu un garçon et une fille, donc j'ai clairement vu les différences justement de stéréotypes de genre qui pouvaient s'appliquer. Quand j'étais enceinte de mon fils, qui donnait des coups dans mon ventre, on me disait « Ah, ça, c'est un vrai petit mec ». Et quand c'était ma fille, on me disait « Ah, c'est une fille, tu vas avoir une grossesse difficile
». C'est fou ça. Clarence Edgar-Rosa, je vous vois écouter Sophie Gourion avec beaucoup d'attention. Évidemment, je le rappelle, vous avez publié cette année « Connais-toi toi-même », guide d'auto-exploration de l'anatomie féminine. Vous, si je vous dis clitoris, vous dites quoi ?
Alors, je ne sais pas si je vais faire un hymne à mon clitoris comme Sophie, ça a été très bien
fait. Mais je pense qu'on pourrait inventer une chanson pour l'émission. Un hymne au clitoris. Vous en pensez quoi, les garçons?
Je vous laisse faire, vous m'appelez comme ça.
C'est une très bonne idée, je ne vais pas dire l'inverse.
Certainement pas ce soir. On est quatre, vous êtes deux, je suis désolée. Clarence, oui.
Mais oui, je dirais que c'est effectivement c'est une partie de l'anatomie dont il faut particulièrement parler. Il faut en parler parce que même si on a l'impression que ces derniers temps, on en a déjà beaucoup parlé, il y a eu un clitoris 3D, il y a eu plein d'articles dans la presse.
Maître Emmanuel Daoud est très intéressé par ce clitoris 3D. Oui,
je laisserai peut-être Sophie en apporter un si elle en a un. mais oui, on a l'impression d'en avoir beaucoup entendu parler ces dernières années. On a surtout l'impression en fait qu'on a découvert comment il était fait, à quoi il servait, quelle taille il faisait, etc. très récemment. Or, c'est des savoirs qui sont ancestraux. On a commencé à le cartographier au XVIe siècle en fait, le clitoris. Donc quasiment aussi
et
précisément qu'aujourd'hui.
Sophie Gourion disait un seul manuel scolaire en 2017.
Bien sûr, parce qu'en fait, on a tendance à perpétuellement oublier ce savoir. C'est bizarre, hein. Ouais. Et du coup, on fin de le découvrir perpétuellement aussi. Donc là, on est dans un moment, effectivement, une période plutôt intéressante pour l'anatomie.
Plutôt propice pour le clitoris.
En tout cas, ça rime, c'est joli. Mais en tout cas, on en parle beaucoup, c'est très bien.
Eh ben, bravo clitoris, bravo à vous deux, maître Emmanuel Daoud. Votre masculin à vous tient en deux objets. Alors pour le coup, je rassure tout de suite nos auditeurs, on est très très loin du clitoris. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquels ?
D'abord un pot de confiture.
Ah, pourquoi ?
Parce que je suis papa de quatre filles et qui sont maintenant majeures. Et souvent à table, lorsqu'il s'agissait d'ouvrir le pot de confiture, c'était au papa que j'étais de les ouvrir avec beaucoup de force. Parfois, je n'y arrivais pas. Ils avaient l'air très déçus. Quand j'y arrivais, j'étais très fier d'être un père et d'être un homme avec beaucoup de force. Et maintenant, je sais qu'il y a des twittos qui existent pour ouvrir les pots de confiture. Vous percez le couvercle et n'importe qui peut les ouvrir.
Voilà. Et la voilà. Magie disparaît.
Donc, c'est un pot de...
La magie du papa, c'est fini.
La magie papa, c'est fini. Et puis, par ailleurs, il y a un maillot que j'ai acheté dans une vente aux enchères, qui est le dernier maillot porté par Lilian Thuram en équipe de France, que j'ai mis dans un tableau parce que le premier match de foot que j'ai vu, j'avais 5 ans, c'est mon oncle prêtre qui espagnol à Madrid qui m'y a emmené.
Il faut toujours avoir un oncle prêtre.
Il faut toujours, ça sert toujours. Et je l'ai vu être un supporter de foot de l'Atlético de Madrid, en l'occurrence acharné. Et puis ce foot a été un lien avec essentiellement pour le moment les hommes, que ça soit dans mon adolescence et maintenant aujourd'hui. Et quand on va dans le monde entier, vous pouvez prononcer le nom de Zidane, de Platini ou d'autres joueurs, et tout de suite il y a une espèce de communauté masculine.
Mais aussi de Mégane Rapinoe désormais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est en train de changer. Un t-shirt de foot, un clitoris, voilà un masculin féminin bien rangé, bien genré pour une fois, qui va s'ajouter dans notre labo du genre au vélo de Geneviève Fraisse. Vous aussi participez, racontez-nous ce qui incarne pour vous le féminin ou le masculin. Vous pouvez m'écrire sur mon compte Twitter, promis, je ferai remonter vos contributions à l'antenne la semaine prochaine. Mais il est temps de se dire au revoir, pas son genre, c'est terminé pour ce soir. Sophie Gourion, je rappelle le titre de votre dernier livre, Les filles / les garçons peuvent le faire aussi, aux éditions Grund, et votre Tumblr, Les mots tuent. Maître Emmanuel Daoud, Lawyer for Women, c'est le nom de votre association. Je signale l'organisation d'un procès fictif et pédagogique le 25 novembre dans un théâtre parisien à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Clarence Edgar-Rosa, Thomas Messias, Marie Kirchen, un grand merci à vous trois d'être passés par chez nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment nous podcaster sans aucune modération sur franceinter.fr ou sur l'appli France Inter.